Bonjour Raymond Richard au micro, et eh bien nous nous retrouvons pour l'émission Tourne-Page, et aujourd'hui eh bien nous avons la joie de recevoir l'auteur Patrick Sandrin qui a écrit un livre qui s'appelle À ciel ouvert. Alors eh bien ça ne parle pas d'aéronautique, non, mais allez, c'est vous qui allez nous dire de quoi ça parle.
C'est une réflexion sur les apparitions de Marie, donc quatre notamment, et dans un éclairage biblique.
Voilà. Donc, vous voyez, c'est une bonne lecture, et en tout cas, j'avoue que pour l'avoir lu, au début, j'ai, vous savez, comme des livres qu'on ne connaît pas bien, on regarde les pages, on va à la fin, et puis je suis revenue et j'ai tout lu. Parce que c'est un livre qui est tout à fait intéressant, parce qu'il nous ouvre des perspectives sur les apparitions, donc, successives de la rue du Bac, de la Salette, de Lourdes et de Fatima. Alors, merci Patrick Sandrin d'être venu nous parler de ce livre, déjà, première chose. Et vous avez donc sélectionné, si j'ose dire, des apparitions mariales, et elles sont toutes en Europe. Là, c'est un choix, j'imagine, délibéré.
Oui, c'est aussi une déduction, suivant une réflexion. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, des apparitions, il y en a tellement qu'on peut pas les compter, enfin, de recenser, de reconnus formellement, il y en a peut-être une quarantaine.
Oui, il y en a beaucoup moins déjà.
Et voilà. Donc, déjà, je me suis intéressé qu'aux apparitions reconnues pour éviter les polémiques.
Et puis, vous aviez fait une construction géographique aussi.
Oui, parce qu'en fait, ces quatre-là m'ont intéressé particulièrement parce qu'elles sont reliées entre elles, suivant une trame et aussi un fil géographique.
Oui, alors c'est là, je me suis dit, là, c'est là qu'intervient la construction intellectuelle derrière des faits qui se passent ici et là.
Oui.
Alors, parlons un peu de ce qui a été à l'initiative de ce, ou qui a initié justement, vous commencez par la rue du Bac.
Ben, la rue du Bac, c'est la première, en fait, pour expliquer pourquoi la rue du Bac et pourquoi ces quatre-là, en fait, c'est aussi une réflexion qui m'a amené à voir qu'il y a une inflexion dans les apparitions à compter du 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un avant, un après. C'est-à-dire qu'avant, vous avez des apparitions classiques, ce que j'appellerais classique, c'est-à-dire que la Vierge apparaît à une personne isolée, elle lui demande de construire par exemple une chapelle ou de creuser le sol parce qu'il se trouve une statue la représentant, et puis un petit sanctuaire qui se construit. Si on recense par exemple juste sur la France, on peut trouver ce genre d'histoire dans tous les départements.
Mais dans tous les départements, on a trouvé des vierges noires. Enfin,
voilà, on peut trouver des signes d'apparition si on prend le temps d'explorer. Il y en a, elles se ressemblent toutes. À compter du 19e siècle, vraiment, il y a une inflexion très nette, c'est-à-dire que Marie introduit ce que j'appellerais, elle se fait beaucoup plus pressante. Il y a un message d'alerte, et ces messages sont orientés sur une intensification du combat spirituel. Elle est plus dans une visée apocalyptique.
Est-ce que ça n'est pas parce qu'aussi, à partir du 19e siècle, en tout cas en France et en Europe, mais a fortiori en France, il y a un recul de la religion?
Oui, mais...
Puis une culture scientifique qui vise à éliminer le sacré.
Oui, il y a ça qui joue. Mais en fait, c'est tout un ensemble de choses, puisque l'Église a toujours eu, de toute son histoire, affronté des tas d'opposition, de contestation et autres. Mais en fait, au 19e siècle, c'est une bataille qu'elle doit mener sur tous les fronts. C'est-à-dire qu'avant le 19e siècle, elle doit affronter surtout des chrétiens qui contestent sa doctrine ou qui contestent l'autorité du pape, ce qui va donner ce qu'on appelle les hérésies ou les schismes. Mais le 19e siècle...
On reste à l'intérieur du...
On reste entre chrétiens, si j'ose dire. Alors qu'à compter du 19e siècle, le combat se fait sur tous les fronts. C'est-à-dire qu'il y a, vous avez des courants de pensée, comme le positivisme ou les libres penseurs qui vont clairement énoncer qu'il faut en finir avec les religions. Donc il y a le développement de l'athéisme avec le marxisme par exemple, il y a la montée de la science qui va être érigée quasiment en religion de remplacement, et quasiment un scientisme.
Et donc en fait il y a un système qui se substitue au système de pensée chrétienne qui prédominait jusqu'à là.
Voilà, on dit qu'on n'a plus besoin des religions puisque la science nous amène tout ce qu'il convient d'avoir. Et on construit un système de pensée qui montre qu'on n'a plus besoin de spiritualité, on a juste besoin de matérialisme. C'est ça qui nous ouvrira le bonheur.
Et est-ce que c'est cette réflexion qui vous a amené à vous dire « mais moi j'ai envie de défendre le fait religieux et la religion ?»
C'est surtout de voir que Marie, c'est précisément dans ce siècle-là qu'elle va faire ce changement. C'est ça qui m'a amené à m'intéresser à ce siècle, qui est très particulier. Et c'est très riche au niveau historique. Et j'ai découvert des tas de choses en justement m'y penchant. Et donc voilà, on comprend mieux le message d'alerte de la Vierge à compter de ce siècle-là. Et en particulièrement au début avec la rue du Bac.
Alors, la rue du Bac, c'est quand même... Nous sommes dans la période quand même où il y a un retour du religieux, et un retour du religieux favorisé aussi par la monarchie, en fait, par le système politique présent en France. À cette époque, de nouveau, le blasphème est puni par la loi.
Oui, sauf qu'en fait, cette montée du religieux qui va s'avérer fragile. Puisque, bon, après, on sait bien que la monarchie ne a pas duré, que les oppositions sont toujours là, toujours bien armées. Et donc ça ne va pas être suffisant pour renverser la vapeur, quoi.
Est-ce que finalement, c'est de la même nature? C'est ça aussi qui m'a intéressée, c'est qu'en fait... vous montrez comment il y a un contexte que vous interprétez comme étant l'antidote. Les apparitions sont un antidote à ce contexte de déchristianisation. Et en même temps, il y a toute une construction de l'Église qui se fait à l'écart de cette religion populaire et du système des apparitions, et qui récuse aussi le système scientifique ou pseudo-scientifique qui s'élabore contre la religion. Là, vous avez fait un choix particulier. Est-ce une analyse juste ou bien comment vous ressentez-vous cette opération de... Alors, peut-on dire la visée de Marie ? Ça me paraît difficile de se mettre à la place de la Vierge. Mais lorsque vous analysez à la fois cette extension géographique bien alignée de l'Europe du centre vers l'Europe extrême, alors qu'en fait, Marie apparaît aussi dans les autres mondes, pas ce contexte de déchristianisation.
Non, je me suis concentré sur ces apparitions-là, mais évidemment, vous avez des apparitions majeures ailleurs dans le monde. Mais simplement, l'Europe semble tenir un rôle très particulier dans le dessin, si je peux appeler ça comme ça, de Marie. Bon, est-ce que c'est le fait que, par exemple, vous avez l'Italie et la France sont les deux pays qui ont le plus d'apparitions dans le monde? Bon, on peut en déduire, enfin, en cherchant pourquoi, on peut jamais être sûr, mais on peut imaginer que l'Italie, c'est parce qu'il y a le siège de l'Église, et la France, parce qu'historiquement, on l'appelle la fille aînée de l'Église, et qu'elle a joué un rôle très particulier, notamment dans l'émission. Donc, est-ce que c'est dû à ça? On peut l'imaginer, on peut pas en être sûr, mais enfin, on constate que l'Italie et la France sont les deux pays
pivots. En tout cas, c'est la thèse que vous avez approfondie. Bien, nous sommes toujours dans l'émission Tourne-Page avec Patrick Sandrin qui a écrit un livre qui s'appelle « À ciel ouvert », où l'on évoque les apparitions de la rue du Bac, de la Salette, de Lourdes et de Fatima, et on les met en parallèle avec la Bible et avec l'histoire. Nous avons évoqué précédemment la période historique qui apparaissait comme étant propice aux apparitions de la Vierge, justement pour combattre ce monde athée qui se profile. Et j'aimerais que vous nous parliez, puisque vous faites dans le livre un certain parallélisme entre les apparitions, j'aimerais que vous nous parliez un peu de la trame de ces apparitions.
En fait, au départ, c'est le constat qu'il y a des trames qui existent dans la Bible. Quand il s'agit de décrire des histoires de conversion, il y a des trames qu'on peut appeler en trois temps. Marie semble reproduire ces trames, justement, dans ces quatre apparitions, et elle les initie à la rue du Bac, justement, qui sont, la rue du Bac, ces trois apparitions. Et chacune des apparitions correspond aux trois temps de notre trame. Alors, pour être plus clair, la première, c'est plutôt la dénonciation du péché, l'annonce de temps difficile. La deuxième, c'est l'épreuve rédemptrice, le passage par la croix. Et le troisième, c'est l'effusion des grâces. Et ça, c'est une trame qu'on retrouve dans la Bible. On pourrait citer plusieurs passages qui en font
état. Dès le Deutéronome, dès les textes les plus anciens de la Bible.
Oui, oui.
On retrouve
Abraham, par exemple, avec l'Exode qui est construit sur ces trois temps-là, le ministère du Christ, etc. Et ces trois temps-là, Marie va les reproduire après la rue du Bac, cette fois-ci dans trois lieux distincts. Donc avec la rue du Bac qui va représenter le premier temps, Lourdes le deuxième et Fatima le troisième. Donc à Fatima, elle un message très très difficile, très abrupt sur l'avènement de temps difficiles. Lourdes qui est plutôt une apparition sur le thème de la traversée, l'épreuve des rédemptrices que va vivre Bernadette. Et Fatima qui se termine par le miracle solaire, c'est l'effusion des grâces.
Donc vous établissez le parallélisme entre les démarches de la Bible, de l'Évangile et des apparitions. Et peut-être on peut s'attarder un peu sur Lourdes, puisque nous sommes en France et que Lourdes... Quoi que vous parliez aussi de la Salette. Allez, parlons un peu de ces deux-là, les quelques minutes qui restent.
Juste pour aborder un autre sujet, c'est que Marie, comme dans la Bible, vous avez beaucoup de contrastes. Par exemple, je vous en cite un. Dieu choisit Moïse pour guider son peuple, pour le sortir d'Égypte. Or, Moïse, il nous est précisé que c'est une personne qui s'exprime très mal, même on pense qu'il bégayait. Donc, Moïse ne comprend pas pourquoi c'est lui qui est choisi pour parler au peuple, puisque précisément...
Pour parler au pharaon d'abord et ensuite au
voilà,
peuple.
Voilà, puisque précisément, il n'a pas du tout les capacités pour... Eh ben, on retrouve la même chose dans les apparitions. Marie joue avec les contrastes. Par exemple, elle va donner un message extrêmement long à la Salette, à deux enfants qui précisément sont connus pour n'avoir aucune mémoire, à tel point que Mélanie, une des deux messagères, était incapable, lors de son catéchisme, de réciter par cœur un Ave Maria ou un Notre Père. Et quand les gens vont voir qu'elles vont pouvoir réciter entièrement un message qui fait facilement trois pages, ça va interpeller...
Et que leurs deux interprétations et leurs deux translations sont identiques.
Voilà. Et Lourdes...
En tout cas, ne se contredisent pas.
Tout à fait. Et à Lourdes, alors on a le contraste encore plus fort, puisque en fait, bon, quand on regarde Lourdes aujourd'hui, on a du mal à se rendre compte, mais à l'origine, la grotte est en dehors du village. Et cette grotte, c'est
on vient y jeter des ordures.
Voilà, c'est un dépotoir, c'est un lieu abject, nauséabond, on jetait les ordures, ou on mettait les porcs quand il pleuvait, donc était couvert de déjections. Et il y avait des légendes plus ou moins malveillantes qui régnaient autour de cette grotte. Et c'est précisément dans cette grotte que Marie va apparaître et va se présenter comme l'Immaculée. Donc là, on a un contraste très 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 fort. Et en plus, elle va faire appel à Bernadette qui appartient à une famille sur laquelle est jetée l'opprobre. Puisque comme vous le savez, cette famille, après avoir été ruinée, va atterrir dans un
cachot.
Donc elle est la risée du village. Donc c'est la dernière personne qui est capable de porter un témoignage d'apparition. Puisque forcément, dès qu'elle va dire qu'elle va avoir vu une belle dame dans cette grotte-là, ça va être...
Quoi que ça ébranle le curé lorsqu'elle lui dit « Je suis l'Immaculée Conception
». Ça va l'ébranler à ce moment-là. Mais avant, le curé, évidemment, va bien se garder de donner crédit aux paroles de Bernadette. C'est uniquement quand Bernadette va lui donner le nom donné par la Vierge que le curé, là, commence à se dire « c'est pas possible, elle a pas pu l'inventer elle-même ». Connaissant Bernadette, qui évoque une culture religieuse, qui lui cite donc l'Immaculée Conception, qui est un dôme qui a été promulgué 4 ans avant, Bernadette était bien incapable de transcrire ces mots-là d'elle-même, quoi.
Voilà, et bien notre émission s'achève. Donc je vous rappelle le titre du livre « À ciel ouvert », l'auteur est Patrick Sandrin, que je remercie d'être venu à Radio Grand Ciel parler de son livre.
Merci.
Les éditions sont les éditions des Béatitudes. Et donc, si vous avez envie d'aller en pèlerinage, eh bien lisez donc ce livre qui amène à réfléchir sur ces apparitions, sur ce qu'elles représentent et qui donne un point de vue. Bonne semaine à tous.